Bonjour à tous, bienvenue sur le 83e épisode de Comics Weekly.
Ouhouhou.
Et vous aurez reconnu la voix de Benny, bien sûr.
Oui, bonjour, c'est moi.
Donc, avec moi cette semaine, nous avons Nono.
Ouais, bonjour les enfants.
Nous avons Jean-Lo.
Bonjour, chers radio-auditeurs.
Et nous avons Claireau.
Oh, bonjour. J'essaie de prendre un peu.
Ça s'appelle la vanne de merde pour bien commencer.
Voilà.
Et je n'ai pas honte. Enfin, pas trop. Donc, avec ça, on va essayer d'embrayer sur les news, hein. Vite.
Allez, on enchaîne direct, parce qu'on n'a pas tout notre temps.
Mmh.
On
n'a rien préparé, surtout.
Allez, dans les news.
Si, c'est fini pour les news.
Les news de cette semaine, nous avons surtout la chose la plus importante. Le Justice League Doom, qui sort cette semaine.
Ouais.
Cette semaine, enfin la semaine qui arrive, le 28 exactement, en DVD et Blu-ray, bien évidemment. C'est adapté de la storyline de JLA Tower of Babel, écrite par Mark Waid et dessinée par Howard Porter.
J'ai hâte de le voir.
Au casting des voix, on a Kevin Conroy qui va faire Batman, Tim Daly qui fera Superman, Susan Eisberg qui fera Wonder Woman, Michael Rosenbaum qui fera Flash, Nathan Fillion qui fera Hal Jordan, Carl Lumbly qui fera Martian Manhunter, et encore bien d'autres, bien sûr.
Sans oublier Steve, qui fera le tout sautement derrière.
Exactement.
Comme ça.
Et je fais le tout sautement dans tous les films que vous voyez, en fait. Je passe mes journées à tousser.
Il fait aussi le bruit de briquet.
Voilà. Donc non, franchement, ça a l'air super bon.
Ouais. J'espère juste que au niveau de l'animation, ça sera un peu mieux que le Batman Year One. Que j'avais pas trop aimé l'animation, le chara-design, quoi.
Je comprends. C'est vrai qu'il était assez particulier. Moi, ça m'a pas beaucoup dérangé, je dois avouer, mais...
Il était un peu trop manga-nisant, japonisant, en fait.
À savoir que ce Justice League Doom est le dernier qui a été scripté par Dwayne McDuffie.
Oui.
Mmh, d'accord.
Avant sa disparition, donc.
Il était là et pouf, il a disparu.
As-tu bu?
Même pas. Si encore j'avais bu, mais même pas.
À noter aussi que à cette occasion, DC fait une opération spéciale sur les comics digitaux, puisque tous les 67 premiers numéros de Justice League, la série d'avant, la série JLA, pardon, celle qui a commencé avec Grant Morrison, puis qui s'est continuée avec Mark Waid au scénario, seront à 99 cents, et ce pendant 4 jours. À partir du 20... Alors, ça dépend, parce que sur l'image, ils mettent 4 jours à partir du 25, et sur le site, ils mettent 3 jours à partir du 27. Donc, je sais pas trop.
Ah oui.
D'accord.
C'est-à-dire que sur leur propre site, ADC, ils savent pas. Non.
Ça fait 66$ pour l'intégralité. Ouais.
Mais voilà, bon, c'est pas excessif, quoi. Ça,
pour 67 numéros, non.
Un dollar l'épisode, ok, c'est du digital, mais $1 l'épisode, c'est ce prix-là qu'on devrait payer.
Ouais.
Pour moi, voilà. Je trouve que c'est ce qu'il y a mieux. Après, ça dépend si on les a pas déjà.
Ouais.
Voilà, je sais que vous aviez des news, donc je vous laisse la parole, et moi je me repose.
Alors, il y a IDW qui a annoncé qu'ils allaient faire une série régulière sur la série True Blood. Avant, c'était des mini qui s'enchaînaient. Là maintenant ça va être une série régulière. Donc voilà, ça sera écrit par Michael McMillian, qui a déjà écrit les mini précédentes. Et c'est pour ceux qui suivent la série, c'est celui qui incarne Steve Newlin, l'évangéliste un peu complètement barré dans la série, dans la saison 2 ou 3, de la saison 2 ou 3, je sais plus. Voilà. Et avec Anne Nocenti au dessin.
D'accord.
Au dessin ?
Ouais.
C'est bizarre parce qu'Anne Nocenti, c'est une scénariste quand même.
Ah bah alors ce sera au scénario.
Tu dois peut-être l'aider à scripter le truc.
Ouais.
Bon, tu remarqueras quand même que par mode silence, personne ne regarde True Blood.
Ouais, mais moi j'aime bien, c'est une bonne série.
À moins que Jean-Lo, peut-être.
Ah non, pas du tout. Non.
C'est une bonne série adulte sur les vampires, loin des Twilight et autres mièvreries de vampires diaries, etc. C'est
un vampire diarrhée.
Vampire diarrhée, ouais.
Ouais, voilà.
Voilà.
C'est très sexe, c'est très gore, c'est très malsain par l'ambiance. C'est une bonne série vampirique.
C'est pas l'histoire où les vampires ont trouvé une cure
Oui, c'est ça, en fait.
Ouais, d'accord. Ok. Très bien. Claire, tu avais news aussi.
Oui, j'avais plusieurs news même. Ouais, carrément, je me la joue. On va commencer peut-être par Neil Gaiman, qui va venir en France. Il va venir au mois de novembre à Nantes, aux Utopiales de Nantes. Donc voilà, ça sera l'occasion.
Réservez vos places dès maintenant. Après.
Ouais, franchement, parce que bon, nous pour une fois que c'est pas trop loin de Niort, on va sûrement y faire un tour. Alors j'ai cherché un peu les dates parce que c'est pas forcément facile à trouver. Donc il semblerait que cette année, les Utopiales, ce sera du 9 au 13 novembre. Donc à confirmer, hein, voir si ce sera vraiment ces dates-là ou pas. Enfin, ce sera voilà, début novembre.
Attention a... LCF, ne faites pas les cons.
Non, ça, le LCF, c'est...
Ne prévoyez pas en même temps, s'il vous plaît.
Le LCF, ce sera le week-end de cette semaine-là. Donc, vous pouvez faire une putain de semaine avec Neil Gaiman au début et Tony Harris à la fin. Genre, le truc...
Bah, ça tombe bien que tu parles du LCF, je vais juste rebondir dessus, parce que cette semaine, on a annoncé les premiers auteurs présents.
En fait, on a trop...
Comment ?
On a trop de news, en fait, on pensait pas.
Carrément. Qui disons, oh putain, on trouve rien cette semaine.
Ouais, donc, vous commencez à connaître le LCF, on aime bien avoir des gros noms. Donc Claire a déjà parlé de Tony Harris, qui sera là. On aura également Ivan Reis et Joe Prado.
Oh, ça rigole plus.
Ouais. Et en invité d'honneur, on aura Peter Badge, qui est très connu du comics Underground.
Ah oui, Peter Bag.
Oui, je pense que ça se dit Bag, à mon avis.
Ouais, nous, dans l'association, on pense Badge. Donc,
Oui, mais c'est parce que vous êtes obligé de pointer... Vous arrivez
et... Oh non, Jean-Lô, tu n'as pas osé.
Sinon, on aura également Raphaël Grandpa.
Simpson.
Oui.
Là, non, j'aurais pas osé, par contre, tu vois. Ouais.
Et Iban Coelho Soria, qui a dessiné, entre autres, le Silver Surfer.
Il faut trouver un jeu de mots super.
C'est pas facile, là.
Super dur. Coelho Soria, Zorix Rex. Non, ça, c'est nul.
Non, c'est pas possible. Ça fait déjà du beau monde, et ça, ce sont que les premiers invités, bien sûr.
Ouais, ce sont que les premiers invités, on en a d'autres sous le coude, dont on attend la confirmation, on en a deux qu'on a eu la confirmation.
Mais ça, c'est pas n'importe où, quand même.
Hein. Et je vais simplement faire un petit teaser, c'est un duo comics qu'on aime beaucoup sur Comic City.
Elise et Moon et Dieudonné.
Ouais, tout à fait.
C'est bizarre, le seul duo comique qui m'est passé par la tête, c'est un duo qui n'existe plus depuis...
Ouais.
C'est pas possible. Ça s'appelle organiser des trucs à l'arrache.
Et donc ce sera le 17 et 18.
Pour le moment, ça sera le 17 et 18 novembre.
Voilà.
Tu avais autre chose, hein, je crois, Claire.
Ben oui, en parlant de conventions et de festivals, je vous rappelle qu'il y a Kapow. Deuxième saison qui revient plus tard que le mois d'avril comme c'était l'année dernière, qui revient donc du 19 au 20 mai 2012, hein, toujours dans la salle du business.
Je crois qu'à ce niveau-là tu peux dire le 19 et 20.
Ouais, non, c'est du 19 au 20 mai, attention, parce que entre les deux il peut y avoir une date qui s'intercale des fois, tu vois, et hop on revient sur le 20, on sait pas trop. Bref, tout ça pour vous dire que les Stanley Awards sont ouverts. Donc, en fait, si vous vous rappelez, l'année dernière, il y avait eu un prix qui avait été décerné. Ça avait fait grand bruit parce que il y avait absolument aucune femme qui avait été nominée dans la liste. Et bien, sachez que cette année, il y a deux femmes. Attention, ça rigole plus.
Et la parité met du temps à s'installer.
Ah là là. Et puis alors,
elles ont couché, quoi.
Non mais. Bah, il y a Sarah.
Il y avait pas d'autre moyen pour qu'elles arrivent là, de toute façon.
Sarah Pitch. Ouais. Donc, voilà.
En même temps, elle est bonne.
Bah, ouais, elle est plutôt pas mal. Donc,
dans le dessin, hein.
Oui, oui.
Et alors, il y en a une que je ne connais pas, qui s'appelle Jane Goldman. Et j'ai regardé un peu, apparemment, c'est une nana qui est britannique et qui fait des trucs britanniques. Enfin bon,
c'est la fille de Jean-Jacques.
C'est ça.
Ok. Ça vole haut les blagues ce soir.
Donc voilà, donc si jamais vous voulez voter, n'hésitez pas. Donc je trouve que les choix qui sont proposés sont vraiment pas top. Allez sur le site de Kapow.
Mais c'est que toi tu ne connais pas les gens, c'est pour ça.
Non, mais je les connais, mais
je les connais, mais je ne sais pas ce qu'ils font comme travail.
Non, mais je trouve que c'est très auto-centré, encore une fois. Et un peu comme. Enfin, c'est un peu le reproche qu'on peut faire à Kapow, quoi. C'est que Marc Millar invite ses potes et voilà, c'est. C'est assez...
Ah ouais, mais en même temps, voilà, c'est son truc. Je veux dire, la convention que Grant Morrison est en train de monter, à mon avis, ça va être la même. Hein. C'est-à-dire quand c'est un artiste de renom qui monte sa convention plutôt, il invite ses potes, ça paraît logique. Et en même temps, si t'aimes l'artiste, bah, t'aimes ses, en règle générale, t'aimes à peu près ses potes. Donc voilà, c'est la convention de Mark Millar. Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que voilà, c'est sa convention et il est nommé combien, 2 ou 3 fois dans les différents trucs, dans les Stanley Awards. Alors,
c'est sa convention, oui et non. À la base, c'est celle de sa femme et lui, il était juste le parrain pour la première année.
Ouais.
Mais bon, voilà. Ouais. Hein. C'est juste histoire de replacer les choses, mais voilà, c'est celle de sa femme, quoi.
Ouais.
Bref. Jean-Loup, tu avais quelque chose, je crois.
Oui, tout à fait. Donc, ben, comme vous le savez, Semic reprend les titres DC. Je suis pas jour. Non, j'ai rien. En fait, non, j'ai rien.
Je me demandais d'où tu partais, toi.
Ah, c'est énorme.
Voilà. Non, je me suis trompé, j'ai de page de calendrier. Excusez-moi.
C'est pas de page, là.
Oui, enfin, d'année de calendrier, effectivement.
Le prix de l'almanach 97, en fait, c'est ça?
Oui.
Alors, moi, j'ai une news. Apparemment, DC prépare un reboot total de sa gamme. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas ce que ça va donner.
J'ai entendu dire que les éditions Lug allaient disparaître au profit des éditions Scénic, mais je suis pas sûr.
Tu peux pas dire ça, non, tu peux pas dire ça. Mais quoique, ça recouperait mon info, mon scoop, mais bon.
Non, sinon, moi, j'ai une news de la première importance qu'on aurait dû même traiter en premier. Marvel a annoncé que suite à AVX, on allait avoir droit à un tout nouvel univers Marvel.
Oh, ouais.
Alors ça, si ça vous assoit pas le cul sur une chaise et vous en décollez plus...
Tu veux dire que rien ne sera plus comme avant ?
Rien ne sera plus comme avant.
Moi, je soupçonne un reboot.
Bah, c'est les rumeurs. Pour contrer DC avec 10 ans de retard, ils prévoient de faire un reboot, quoi.
Putain. Je ne sais même pas comment réagir à cette news.
Mais on est tellement le cul par terre que... Voilà.
C'est-à-dire que là, je vois un cutter posé à côté de moi, j'envisage peut-être l'ouverture de veine.
Non, s'il te plaît, ne fais pas ça.
Après, il faudra
nettoyer et tout.
Je savais que c'était simplement parce qu'il faudra nettoyer. Je te promets, je ferai attention, je mettrai ça dans une tasse.
Ah, merci.
Oui, alors, en parlant d'AVX, est sorti cette semaine le numéro preview d'AVX, puisque comme s'il n'avait pas assez communiqué, il faut encore qu'il nous fasse un preview.
Bah ouais, mais en même temps, ça nous permet
de pas acheter la suite.
Bah non, justement, alors, ça permet en fait aux gens qui sont pas forcément, qui lisent pas forcément les Vengeurs ou qui sont pas forcément au courant des X-Men, de se remettre au goût du jour. C'est un numéro gratos qui est distribué chez votre comic shop, dans votre comic shop. Donc pourquoi pas, quoi.
J'ai oublié de dire que tu avais apprécié, Nono.
Bah ouais, en fait, j'ai pu le récupérer et j'ai... Donc en fait, comment il se décompose? Sur les premières pages, vous avez...
Il se décompose, ouais.
Sur les premières pages, vous avez une très très sommaire présentation des différents protagonistes. Donc ça commence par les Vengeurs, où ils vous présentent Red Hulk, Captain, Luke Cage, Iron Man, etc., etc. Chose étonnante, Secret Avengers, il y a Beast.
Oui, mais depuis le départ.
Oui, mais moi, en fait, c'est mon truc à moi. Je regarde très très peu les teasers, etc. En fait. Pour éviter de me spoiler un maximum.
Non, mais depuis le départ de Secret Avengers, en fait.
Oui, mais vu que c'est AVX, là, on sait que Beast, du coup, reste du côté Avengers, quoi.
Bah, c'est pas étonnant, étant donné qu'il a fait sécession avec Cyclope depuis très longtemps, quoi.
Ouais, mais il est du côté de Wolverine, maintenant.
Oui.
Il est dans la série Wolverine and the X-Men.
Oui.
Et justement, chose étonnante également, c'est... il présente Vengeur X-Men... Secret Avengers et Wolverine and the X-Men.
Oui, puisque apparemment on a bien vu que Wolverine avait déjà fait son choix.
Ouais. Donc et là, il y a une dernière page qui nous présente.
Faut dire aussi que la série Wolverine and the X-Men est tie-in au crossover AVX. Oui. Donc c'est aussi pour ça qu'ils présentent cette série.
Ouais. Et après on a les Jokers, entre guillemets, ce qu'ils appellent les Wild Cards, où on a Quicksilver, Nova, Scarlet Witch, Hulk, Deadpool et Cable.
Donc, cela veut dire qu'à la fin de X-Sanction, Cable ne meurt pas.
Ouais, voilà.
Voilà, merci, donc c'est bien, vous êtes spoilé à l'avance, merci Marvel.
Ouais, carrément.
Ça fait toujours
En fait, je me l'étais pas dit la première fois, et c'est là, en revoyant cette page, que je me dis, merde, putain, donc Cable, il meurt pas, en fait.
Mais c'était obligé dès le début.
Bah oui, ils vont
comme
pas
d'habitude.
Faire.
Non, mais à la base, il était revenu, rappelez-vous, dans le tout premier numéro d'X-Sanction, il revenait, et oh là là, j'ai que 24 heures pour agir.
Ouais.
Jack Bauer, Cable.
Ouais. Et donc ensuite, on a une preview du numéro 0 qui
sort le 28 mars. Hein.
Alors attends, je regarde la date, c'est pas marqué.
Il sort le 28 mars.
D'accord, 28 mars. Et qui donne assez envie, en fait, qui présente une discussion entre Cyclope et Hope. ouais, je sais, ouais. Et du coup, ça donne assez envie. Ils s'engueulent un petit peu. Hop, en a marre qu'on la prenne pour une gamine. Et ouais, moi, ça m'a donné vachement envie. Et ensuite, on a une preview du AVX versus.
AVX versus, oui. Donc, ce n'est pas un problème. Hein. AVX versus, c'est simplement cette série de combats qui n'auront pas la place de mettre dans les pages, donc ils vont opposer un tel face à un tel. Voilà.
Ouais, donc là où on voit grosso modo une discussion chez les Vengeurs qui pressente le retour du Phénix et Cap va faire Cap. donc voilà. Donc Cap va faire route plutôt sur Utopia et va avoir une discussion avec Cyclope. Voilà. Ouais, c'est tout pour cette news.
Moi j'ai l'impression qu'on en a perdu deux en route.
Non, pas du tout. Vraiment, non. Là, je ne comprends pas pourquoi.
Non, mais de toute façon, j'ai bien compris que Nono avait aimé, donc ça va pas être bon, quoi.
Ouais, voilà.
Ouais. Ouais, oui, moi, c'est ça. Je veux dire, ça...
Non, par contre, il y a un truc qui est de la pub gratos que j'ai trouvé assez sympa. En fait, ils font une road list sur ce qu'il faut si vous voulez apprécier pleinement le nouveau crossover, sur ce qu'il faut lire.
Le crossover.
Non, moi c'est apprécier pleinement, tu vois, déjà ça me fait rigoler, quoi.
Oui, bah écoute,
non pardon Nono, hein, mais c'est juste que moi je trouve ça ridicule, quoi. Enfin, après bon, les goûts,
oui,
les couleurs,
et voilà, j'irai voir, et si c'est mauvais je continuerai pas, quoi, mais j'irai voir quand même les premiers pour voir ce que ça vaut.
Bon, de toute façon, t'as pas besoin d'aller voir, tu sais qu'il y a un reboot à la fin maintenant.
Donc voilà, c'est fini pour les news.
Non mais enfin bon, je vais vite fait donner mon avis. Non, on s'en fout. Moi je l'ai feuilleté, ça me donne pas plus envie, au contraire, quoi. Au contraire, j'ai vraiment l'impression que Marvel se fout de notre gueule, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu Fear Itself, maintenant on a ça. Et maintenant on attend le reboot. Bon. C'est un peu facile, quoi. C'est vraiment pour essayer de faire vendre AVX encore plus, on dit ça va occasionner un reboot. Donc les gens auront encore plus envie d'acheter. Mais à mon avis, l'effet Flashpoint et l'effet reboot ne marchent qu'une fois, pas deux.
Ouais, ouais, c'est clair. Non bah c'est clair, hein, de toute façon.
Par contre, s'ils arrivent derrière à nous faire de la qualité comme DC le fait en ce moment.
S'ils arrivaient à faire la qualité comme il y a sur les plus petites séries de chez Marvel,
oui,
sur l'ensemble des grosses, ce serait génial. Ouais.
Par contre, un truc que je tenais à dire, c'est sur la preview de AVX 1, c'est Romita Junior au dessin, et ben, j'ai déjà dit plusieurs fois que ce que faisait Romita, c'était de la merde, que j'aimais absolument pas son nouveau style très brouillon. Là, on sent qu'il a eu le temps de le peaufiner, et ça revient un peu dans ce qu'il sait faire de bien, quoi.
Je suis d'accord.
Ok.
Eh bien, on va passer maintenant au review, après cette bonne partie de news où finalement on n'en avait pas.
Oui.
Ah, comme quoi.
Mais bon, on a bien su le dissimuler.
C'est ça.
Et puisque tu parles de dissimuler, je propose de commencer par du Marvel.
D'accord.
Ça s'appelle une vanne de merde.
Donc c'est pas moi qui commence.
Non, qui va commencer cette semaine? Eh bien,
allez,
je propose Jean-Lô. Puisqu'il ça fait longtemps qu'il n'a pas été parmi nous.
En même temps, j'ai pas fait de Marvel, donc.
Comme ça, tu fais tomber à l'eau ma blague.
Voilà. Et donc, nous allons commencer cette semaine de review avec All Star Western chez DC Comics. Donc, scénarisé par Jimmy Palmiotti et Justin Gray. Et au dessin, c'est Morita. Il n'a pas de prénom, donc. Et ce chapitre s'appelle
C'est trop ça.
Et c'est juste le blanc. Pardon.
Et ce chapitre s'appelle Shadow of the Bat. Donc, pour ceux qui avaient suivi un petit peu les anciens numéros, donc
comme tout le monde, hein, comme tout le monde ici, hein, d'ailleurs.
Ouais, carrément.
D'accord.
Donc non, le seul qui lisait All Star, c'est Sam, qui n'est pas là et à qui on fait coucou Sam.
Salut Sam.
Coucou Sam.
Va chier Sam.
Donc c'est pour plus... résumer les trois derniers numéros, si je dis pas de bêtises, enfin les deux derniers numéros en fait, Jonah Hex fait toujours équipe avec le professeur Arkham, et donc là ils sont partis enquêter sur la disparition d'un jeune garçon issu de famille bourgeoise, et en fait en enquêtant ils se rendent compte qu'il y a d'autres enfants qui ont disparu, donc qui sont arrivés dans une caverne où on a vu que les enfants étaient exploités, un petit peu comme dans Indiana Jones et le Temple du Péril.
Du Péril?
Non, c'est pas ça.
Temple maudit.
Je l'ai jamais vu, cet Indiana Jones là. Je ne le connais pas.
C'est un fan movie en fait.
Ouais, un peu dans Indiana Jones et le Temple maudit. Parce qu'il est mort. Et voilà.
Non mais
vous comprendrez à la fin de cette émission pourquoi on rigole autant.
Tout le monde ne vient plus, c'est tout simplement parce qu'il y a des problèmes avec l'alcool.
Oui, il y a des gens qui vont en deux. Mais je me resserre un petit peu quand même. Donc c'était une scène un petit peu à Indiana Jones et le temple maudit. Finalement ils sont repérés et ils sont jetés dans une caverne.
Marmite.
Geôle.
Non, dans une... comment ça s'appelle, vous savez quoi ?
Un trou.
Une oubliette.
Voilà, un trou, une crevasse. Et je vous rappelle qu'on est à Gotham. Donc réfléchissez, qu'est-ce qui peut se passer du côté de Gotham quand on est sous la terre.
On trouve des chauves-souris.
Voilà.
Il y a des crocodiles.
Et donc là, ils se retrouvent face à
une chauve-souris. Claire, t'as rien suivi encore.
Oh, désolé.
Ils se retrouvent face à une chauve-souris géante et donc ils vont devoir s'en sortir. Donc ça, c'était le résumé.
Franchement, quand t'as commencé les premiers mots de cette review, je me suis dit, putain, on est parti pour une demi-heure.
Et quand t'as dit, je vais vous résumer les trois derniers épisodes.
Ah ouais, non mais...
Non bon, en gros, ensuite, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode-là ? Ils vont arriver à s'en sortir, aux surprises, et ils vont remonter à la surface et continuer leur enquête, aidés en partie par la famille Wayne. Voilà, une certaine famille Wayne qui sont des nobles de la région, donc bon, voilà, c'est toujours toujours intéressant.
Encore des gens qui laisseront pas de traces dans l'univers DC, ça.
Non, de toute façon, en plus, qu'est-ce qu'ils pourraient donner comme future génération à part des aristos un petit peu... Bon, bref. Et donc, ils continuent à mener leur enquête, et puis, mine de rien, ils arrivent quand même à bien progresser.
C'était pas un jeu de mots, le mine de rien, vu que ça se passait dans une mine, juste avant.
Non. Ah, c'est dommage, ouais, non, c'est un jeu de mots. dans les grandes lignes, en fait, c'est très intéressant. Ça fait vraiment enquête, mais enquête dans autant du western, donc c'est assez sympathique. Bon, après, faut aimer un peu le genre parce qu'il n'y a pas spécialement d'action, mais voilà, c'est vraiment le personnage reste fidèle à lui-même, toujours ce cowboy solitaire. I'm a lonesome cowboy. Voilà.
Tu chantes bien.
Merci.
Ouais.
Et puis non. Et alors par contre, il y a rien que pour une chose qui est très intéressante, c'est que la famille dont l'enfant a disparu, en fait, à un moment on voit leur intérieur et il y a plein de.
On voit l'intérieur de quoi ?
Non, c'est pas possible.
Oh désolé, celle-là elle était trop grosse.
Ah, putain, non, vrai, j'essaie de faire une review sérieuse, enfin, j'essaie de m'y remettre, là. Donc,
vas-y, on voit leur intérieur, et alors, qu'est-ce qu'il y a dedans?
On voit l'intérieur de leur maison, et aux grandes découvertes, on s'aperçoit qu'ils ont des hiboux dans leur maison.
Oh.
Donc. D'accord.
Claire, elle sait absolument pas pourquoi.
Si je dirais, ils ont des libellules, ce serait pareil, tu vois.
Donc, voilà. Non mais bon, donc on peut douter pour ceux qui lisent la série Batman, la série régulière, qu'il y a un début de crossover qui je crois a été annoncé par Steve la semaine dernière, je me rappelle avec le podcast.
Je sais pas comment on va réussir à reprendre après tout ça.
Aïe.
Donc Jean-Loup, ton verdict?
Ah bah c'est un bail.
Je pense quand même que vous avez mis plus de temps à écouter la review qu'à lire le comic, mais...
Voilà. Et si vous avez compris de quoi ça parle, faites-nous un résumé.
Les dessins sont sympas et le scénario est assez bien ficelé. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça annonce du gros lourd pour la suite.
De toute façon, donc, pas le mieux tigré, c'est toujours très bon.
Voilà. Et puis la dernière page est assez sympathique aussi. On a l'impression qu'on va avoir bientôt le droit à une nouvelle équipe, mais autant de Jonah Hex, quoi. Donc c'est à suivre, quoi. Et puis il y avait un petit tie-in aussi, bon, qui reste sympa sur The Barbary Ghost.
Je pense que tu voulais dire backup en fait.
Un petit backup, oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Non, mais ça fait longtemps que j'ai...
Non, mais t'inquiète, moi aussi, je me plante.
Je me suis pas entraîné. Donc, un petit backup bien sympathique aussi, qui change un petit peu toutes les, tous les deux, trois numéros. Et donc, bon, là, c'est la fin de ce backup. Donc, je suppose qu'il y en aura un autre. Et ça aussi, ça peut faire penser qu'il y aura une équipe, une sorte de Justice League dans le futur de Jonah Hex, de All-Star Westerns. Voilà.
Très bien. Eh bien, merci.
Ah mais de rien.
C'était limpide.
Ouais, hein, moi aussi.
Ouais, non, j'ai été droit au but en plus, tout ça, donc.
Comme il vit, Tom.
Voilà, comme avant. Toujours
comme
le même.
Il vit, Tom.
Fier du boulot.
Ok, on va passer à la suite. On va rester chez DC avec le Aquaman numéro 6, écrit par Jeff Jones. Alors, avec des breakdowns de Ivan Reis, hein, donc c'est-à-dire vraiment des traits plus qu'esquissés. Comment ?
Est-ce qu'ils viennent de Belzus ?
Alors là, je cherche la vanne.
Tu sors ou tu rentres ?
Break it down.
Ok, ok. C'est pas la culture. Et donc, l'ancrage et la majorité des dessins ont été faits par Joe Prado, qui donc est plus qu'un ancreur. Voilà. Ça laisse un vieux blanc parce que je ne sais plus quoi dire.
Bah, parle-nous du...
Donc à la fin du 5, on avait cette fameuse image où on voyait Aquaman tout perdu parce qu'il trouvait le mot de Mera qui lui disait « Je vais en ville chercher à manger pour le chien ».
Mais c'est vrai que moi ça m'inquiète à chaque fois que je vois ce message. Surtout que j'ai pas de chien, donc bon, c'est encore plus problématique quoi.
Est-ce que tu as des cornes qui ont poussé récemment ?
Non, non, ça va, mais bon, j'ai un peu peur quand même, tu vois, parce que ça fait quand même 15 jours que... Non, un mois qu'elle est partie, donc...
Je crois qu'elle ne reviendra pas.
Ah, bah ça doit être ça alors.
Je pense. Hein.
Je pense que tant qu'elle n'a pas trouvé à manger pour le chien.
Ça doit être ça.
Parce qu'elle cherche une marque précise, apparemment. On s'en fout.
Je me doutais qu'il serait difficile ce podcast, mais à ce moment, je pensais pas. Honnêtement. On en est qu'à la deuxième review.
Ouais.
Il y en a encore 8 autres derrière.
Après, c'est tout.
Donc, Mera est partie en ville, elle est partie acheter à manger pour le chien. Alors, Mera qui ne comprend rien à la société humaine, hein, se retrouve dans une ville où déjà Aquaman. Et donc Mera, que tout le monde appelle Aquawoman, rejette un petit peu ou se fout de leur gueule, hein, ça dépend. Personne la comprend, on essaye de lui tripoter le cul au passage, elle pète un bras, et bien sûr c'est malvenu, forcément. Bon, c'est franchement, c'est sympa. C'est sympa, c'est fun.
Toujours aussi bien.
Mais il se passe rien.
Ah, ça c'est sûr que si on la suit pendant tout le comic, elle est chercher à manger pour le chien.
Voilà, c'est ça, c'est le fiche de départ, c'est « Chérie, je vais acheter à manger pour le chien ». En
et
même
c'est
temps...
Ça.
Voilà.
Elle a fait un trident, elle a chassé un cerf et puis elle a
rencontré Superman qui marchait au passage.
Ah non, elle a été en ville et ça s'est mal passé. Bon.
Ah bah là c'est beaucoup plus intéressant d'un coup.
Non mais c'est vraiment tout. Donc c'est-à-dire que c'est très sympa, c'est très fun à lire, c'est agréable, on passe un bon moment, mais l'histoire n'avance pas quoi. Et on en revient au même point qu'on était à la fin du 5, c'est-à-dire que Aquaman lui dit on va aller retourner voir le professeur qu'on avait vu dans le premier arc pour essayer de découvrir, qui a fait couler Atlantis. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le 5, il s'est rien passé. On a le 5 où on a Aquaman tout seul, là, dans le désert, et on a le 6 où, pendant qu'Aquaman est dans le désert, voilà ce que fait Mera.
Oui, c'est un interlude, quoi.
Ouais, enfin, ça fait deux épisodes, quoi.
Ouais, c'est deux épisodes. Long interlude.
C'est la narration de Jeff Jones aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que, faut être honnête, Aquaman, il s'est pas passé grand-chose depuis le départ. Et voilà, ça continue. Donc, c'est sympa. Je suis un peu emmerdé pour mettre une note. Parce que, malgré tout, on passe un bon moment, mais au niveau de la storyline principale, voilà, ça avance pas, quoi.
Et pourtant, non, tout le monde continue à dire que c'est l'une des meilleures séries du relaunch, quoi.
Le truc, c'est que Geoff Johns, il essaye de relancer le truc que faisait Stan Lee dans les années 60, la méthode de Stan Lee. Donc là, il a juste dit, oui, bon, Mera sort de la maison et il se passe des trucs. Et voilà. Et après, c'est au dessinateur de faire des trucs, donc de faire les dessins. Donc bon, il dessine un bras cassé. Puis après, lui, il met les textes. Oh, aïe, j'ai mal, mon bras.
Non, mais enfin bon, voilà, comme je vous dis, ça reste sympa. Donc c'est quand même une bonne lecture. On va dire un petit bail parce que on passe un bon moment, mais si vous voulez que l'histoire avance, c'est un passe.
Ouais.
Voilà. Et je passe la parole à Nono.
Ah, il est là ?
Ah oui, bonjour.
Ah bah salut Nono.
Oui, alors moi j'en ai lu deux cette semaine, hein, c'était une petite semaine. Je sais pas de quoi vous parlez en fait. Ouais. Je vais commencer par celle que Jean-Loup a lu également, tiens. Comme ça, on va pouvoir en parler à deux. Alors c'est une nouvelle série qui est sortie chez Image Comics, qui s'appelle No Place Like Home, avec au niveau des crédits, des gens que je ne connais pas du tout. Donc écrit et créé par Angelo Tirotto.
Ah oui, Tirotto.
Voilà. Okay. Au niveau de l'artiste Richard Jordan qui a également fait la cover. Et on a une variante cover de Ian Churchill qui est un peu plus connu. Colorisation de Paul Little. Et en fait, Angelo Tirotto a également fait le lettrage.
D'accord.
Voilà. Donc, de quoi ça parle, Steve ?
Alors, à ce que j'ai cru comprendre, ce serait une sorte de variation sur le thème du magicien d'Oz.
Eh bien, tout à fait.
J'ai pas vu le rapport, mais...
Rien que le titre, et puis il y a un petit clin d'œil, et puis... Ouais. Et puis de toute façon, c'est vrai que moi j'étais un peu fouillé sur le net pour savoir un peu de quoi il retournait et il te spoil le tout quoi. Malheureusement.
Alors moi j'ai pas été me renseigner sur le net. Hein. Tout ce que j'ai vu de la série, c'est ça.
D'accord. Bon alors au niveau du pitch, ça commence par ça se passe en 2001. Il y a un ouragan qui
fait tomber une tour. Ah non, c'est pas ça.
Non. Dans le Kansas. Et il y a donc deux personnes assez âgées qui ont une petite ferme, qui s'enferment dans leur cabane, dans leur abri anti-ouragan, là en dessous de la maison.
Déjà si tu vois pas le rapprochement avec le magicien d'Oz.
Ouais, c'est important d'un film, là, vous savez, là.
Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai dit oui, c'est vrai. Oui. Et en fait, il se passe un truc. Tout ce qu'on sait, c'est les personnages qui disent « Ah non, pas encore toi ». Et voilà, on voit des plumes, et c'est tout, ça s'arrête là, et c'est la fin du comics. Donc pour moi, c'est un pass. Non, ensuite, on sort un peu de cette image assez sombre de l'ouragan, on voit une nana qui revient, on comprend que la nana était partie pendant plusieurs années à Los Angeles, et donc elle revient, et on apprend en fait qu'elle revient pour la mort de ses parents, qui étaient les deux fermiers du début, parce qu'ils sont morts. Voilà. Et donc elle revient, tout le monde l'accueille, etc. Le shérif, sa meilleure amie de l'époque, qui fait un peu prostitute, hein, je crois qu'on peut le dire comme ça.
Voilà. J'ai trouvé qu'ils étaient très coincés dans les années 90, je trouvais le.
Oui, même si ça se passe en 2001, ça fait très un peu années 90, c'est vrai, même par le design, la colorisation, etc. Et par le style de l'histoire, et en fait, on va se rendre compte. Oui.
Non, enfin les décors, les fringues, les choses comme ça, quoi.
Ouais. On dirait que c'est
un peu coincé, ouais.
Ouais. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a une espèce de légende urbaine qui traîne, dont tout le monde est au courant, mais dont personne ne veut parler, avec un vieux clochard qui lui veut révéler toute la vérité, et ça se termine sur un truc pas très joyeux et qui donne vachement envie d'aller voir la suite. C'était un numéro 1, je me suis dit tiens je vais le feuilleter, j'ai accroché donc je l'ai acheté et je suis vraiment pas déçu de l'avoir acheté parce que j'ai vraiment envie d'aller voir la suite. Donc pour moi ça sera un check-it à tendance buy parce que c'est le premier, donc ouais. À voir ce que ça donne pour la suite quoi.
Ouais, d'accord. Pour préciser que c'est chez Image, je sais plus si tu l'avais dit.
Oui si.
Et pour moi les dessins ça m'a beaucoup fait penser à du Richard Corben. Surtout au début, un petit peu moins après, mais un peu dans cette mouvance-là. Et puis le scénario, par contre, ça m'a fait penser à un mix entre ça, de Stephen King, et puis, je sais pas, Art Laker à vif, non, j'en sais rien.
Non, mais toi, t'étais chercher la série des années 90, là, c'est sûr.
Non, mais c'est en fait, il y a un gros secret.
Ouais, sur le fait que ça fait un peu Stephen King dans l'histoire.
Il y a un gros secret et c'est très bien traité. Enfin, ça donne vraiment envie de lire les prochains numéros. Et puis en même temps, il y a ce côté, un peu génération perdue, un peu, on est des losers et puis voilà, quoi, on n'a pas rétro réussi dans la vie, mais bon, tant pis.
On est plus dans les années 80 là, quand même.
Ouais, la passation entre ces deux décennies, tu vois. Enfin voilà. Non, moi aussi, ça sera. C'est comme Nono, quoi. C'est un bon check-it.
Vous m'avez donné envie de lire en tout cas. Je pense que j'irai voir ce petit truc-là parce que je savais pas trop quoi en penser. Je me suis dit, il y a moi j'aime beaucoup la version Magicien d'Oz chez Marvel par Scotty Young.
Ouais, j'attends que ça sorte en VF ça. C'est vraiment un truc qui m'intéresse, mais il y a tellement.
Très bientôt là, je crois.
Ouais, carrément.
Et moi j'aime beaucoup. C'est très rafraîchissant et j'avais pas forcément envie d'aller voir quelque chose d'un peu plus gritty, quoi. J'avais envie de rester dans cet esprit un petit peu enfantin du Magicien d'Oz.
Ouais.
Mais finalement, ce que vous en avez dit m'a donné envie d'aller voir, donc j'irai voir. Ouais.
J'aime bien lire les numéros 1 de chez Image. J'avais déjà fait des Unspoken d'ailleurs sur plusieurs numéros 1 qui étaient sortis. Ce Image, c'est un peu l'indépendant qui cartonne avec des grosses séries, etc. Et du coup, les numéros 1, je suis assez curieux. Mmh. Et là, j'ai pas été déçu.
Très bien.
Ouais. Et sinon, juste pour rajouter, c'est vrai que ça fait un peu comme c'est un peu dans le même genre que comment ça s'appelait Return to Wonderland ou peut-être un peu côté aussi Unwritten. Mm. Vous voyez, avec ce mélange entre un mythe, on va dire classique ou une histoire, une réécriture est modernisée avec un contexte d'aujourd'hui, quoi.
Ouais, j'avais une vieille blague sur la mythe qui bouffe les vêtements, mais je vais pas le faire en fait.
Non, je crois que c'est mieux.
C'est bon, c'est fait. Ok, Claire, tu as lu la même chose qu'il y a 2 semaines.
C'est ça, c'est le seul truc
le
que
même
je suis sourd.
Oui, elle a lu le numéro 5 en plus, c'est ça, elle s'est trompée.
En fait, Claire ne vient que pour faire cette review.
Non mais
je comprends pas, l'épisode de cette semaine, il était exactement comme celui il y a 2 semaines. Franchement, c'est un passe.
Non mais en ce moment, je suis tellement à la bourre que... La seule série que je lis quand même, c'est du Marvel. Ah, donc attention. Hein.
Et si on nous avait dit il y a 2 ans, Claire ne lira que du Marvel.
Mais d'ailleurs, je crois que c'est la seule à avoir lu un titre Marvel cette semaine.
Ouais, carrément.
C'est bien la preuve que Marvel, c'est plus que c'était quand même.
J'ai pas encore lu le titre qu'elle va faire. Je l'ai, mais je l'ai pas encore lu.
Non, moi je dis Marvel, c'est plus que c'était, la preuve.
Ouais, mais carrément. Mais mais que veux-tu, le chômage, ça te bouffe du temps, hein, mine de rien. T'es bien placé pour le savoir.
Oui.
Alors, sur ces discussions sociologiques...
Sociopathiques.
Non, attendez, parce que moi, j'ai quand même entendu un truc magnifique. Non, je vais pas en parler, parce que ça n'a rien à faire dans le podcast.
T'as des bancs, c'était
merci,
quoi.
Nono, de cette intervention.
Merci de teaser.
Je vous en prie, y a pas de souci.
T'as des bancs, c'était quoi? Je couperai. Hein.
C'est Sarko qui veut que les gens au RSA fassent 10 heures de travail.
On peut en parler, c'est pas grave. Nous
d'intérêt général, ça veut dire que déjà t'es au RSA, donc tu gagnes 500 euros par mois, et en plus tu vas devoir aller bosser
500,
t'es
gentil.
Dépenser de l'essence, etc.
T'es gentil quand tu dis 500, Nono, c'est 400. C'est 420.
Ouais, 420. Je trouve ça magnifique comme
idée.
C'est-à-dire que tu vas faire une journée de taf par semaine.
C'est l'intérêt général avec le podcast.
Ouais.
Une journée de taf par semaine, alors que, déjà que tu gagnes que dalle.
Voilà, c'est ça. Ouais.
C'est parce que je pense, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais la majorité des gens qui sont RSA, c'est pas forcément parce qu'ils en ont envie. Hein.
Ouais.
Devoir les faire bosser en plus, alors que déjà ils acceptent pas forcément leur situation, qu'ils essaient de se démener pour trouver du taf, je trouve pas que ce soit la meilleure solution. Mais bon.
Eh bien, bienvenue sur Politis, le podcast sur la politique.
Oui,
Politique City. Hein,
Politique City, c'est le comics et la politique. Voilà.
D'ailleurs, je trouve qu'on ne fait pas assez de comics politiques et je regrette beaucoup la fin des.
Mais en même temps, tu n'aimes pas quand tu lis des comics à tendance politique, Steve, donc.
Ça dépend.
Je me souviens de quand t'avais chroniqué le premier Fear Itself, t'as dit, ça me fait chier cet aspect politique qui donne au truc.
Non, parce que c'était de la politique, à dessous. C'est la politique que tu trouves au café du commerce. Moi, j'appelle pas ça de la politique. Si tu veux lire un comics politique, je te conseille Ex Machina. Qui est là par contre un vrai comics politique
est sur la liste
et beaucoup plus intéressant. Mise-y-toi vite puisque Tony Harris vient au LCF.
Ouais, carrément.
Non, c'est franchement. Moi j'aimerais lire plus de comics comme ça personnellement.
D'accord.
Et par comics politique, on n'entend surtout pas les biopics de Blue Water. Hein.
Et le comics sur Sarah Palin.
C'était chez Blue Water.
Ouais.
Voilà.
Pitié, quelle horreur. Bref. Wolverine and the X-Men numéro 6.
Alors non, moi j'ai lu Wolverine and the X-Men numéro 6, hein, comme vous l'avez.
Ah.
Wolverine. Voilà.
C'était pourri, genre.
Alors j'essaie de faire plus court que la semaine dernière. Donc,
sans trop spoiler, parce que je l'ai pas.
Non mais c'est pas grave, je suis là ce soir.
Sans trop spoiler, donc t'as pas lu le truc d'avant.
Le 5, non, je crois que je l'ai pas encore lu non plus.
Ah ouais, mais là je vais pas pouvoir en parler sans spoiler.
Alors je vais faire pipi.
Ouais. Voilà.
Mais fais pas trop de bruit quand même, hein.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Donc, vous nous avez laissé avec Kitty Pryde, donc qui avait quelque chose dans le ventre. Donc, vous avez lu le 5, vous savez ce qu'il y a dans son ventre. Donc, en fait, on est sur une partie de l'école qui s'occupe de Kitty Pryde, et une partie de, enfin, et Wolverine et Quentin Quire, qui sont partis dans l'espace, hein, sur une planète s'appelle Planète Sin, donc qui en fait, je sais pas si vous connaissiez déjà cette planète ou pas, les gens qui lisent du Marvel, c'est une planète en fait qui est un peu l'équivalent de Las Vegas sur une planète en fait. Non, vous connaissiez?
D'accord.
Non, je sais pas. Bon, voilà. C'est assez psychédélique dans la façon dont c'est dessiné. Il y a vraiment deux ambiances différentes au niveau des dessins. D'ailleurs, je vous ai pas dit qui c'est qui le dessine. C'est Nick Bradshaw. Et c'est toujours Jason Aaron qui est au scénario. Et avec toute une équipe d'encreurs. Donc je vous laisserai regarder l'équipe. Hein.
Et le dessinateur, c'est qui?
Ben c'est Nick Bradshaw.
D'accord, pardon.
C'est pas grave.
En fait, j'ai été partir en faire la bouteille de flotte, je reviens, je sais de quoi on parle.
Bon, c'est pas grave. Donc, écoutez, voilà, on a les broods hein, qui sont revenus, ça vous l'aviez bien vu. Donc, sans tout vous spoiler, ils sont partis à Las Vegas, la planète là, pour se refaire de l'argent parce qu'ils ont plus d'argent pour payer l'école. Ça, c'était le gros problème qu'on avait eu sur les derniers numéros. Ça va plus ou moins bien se passer, hein.
En même temps, j'ai envoyé Longshot.
Et avec Quentin Quire, on voilà. Donc, je vais pas vous en dévoiler plus de ce côté-là. Et du côté de Kitty Pryde, ça se gâte, hein. Elle est un petit peu dans la merde quand même, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et donc, voilà. Ça... Non mais je peux pas en dire plus, c'est terrible. Donc,
Tu veux dire qu'elle est enceinte d'une boule de caca?
Mais c'est exactement ce que j'ai pensé. Hein. Je me suis dit je vais laisser continuer parce qu'on est déjà vachement en retard. Mais...
Non, elle est enceinte d'autre chose, mais bref, elle est dans la merde. Donc c'était un très bon numéro encore une fois, qui avance bien sur l'histoire. On est vraiment.
Ça allait.
On était vraiment concentré sur les deux histoires en parallèle par gros moments quoi. Il y a pas vraiment de un coup on parle de l'un, un coup on parle de l'autre. C'est plus on a tout le début qui est plus sur Kitty et toute la fin qui est plus sur Wolverine. Voilà. Donc un bail. Encore une fois, moi j'aime bien cette série. Elle est vraiment rafraîchissante, super sympa et ça me permet de découvrir des personnages que je connaissais pas forcément. Donc voilà. Achetez-le, c'est bien.
Mais de toute façon, c'est une valeur sûre hein, de chez Marvel. On voit bien les scores de vente qu'ils font chaque mois. Donc, ouais, non, c'est une très bonne série.
Ouais, okay. Carrément. Heureux au passage.
Oh. Tu
fais ta vie, hein, Nono, t'inquiète. Hein. Moi, j'allais me faire des pâtes là, et puis.
Ah, moi, je me suis pris du pâté dans le frigo.
Ah non.
J'ai faim.
Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Hein.
Non.
Oh, j'ai la dalle. En même temps, il est 9h15.
Ouais.
Bon,
du matin.
Allez, on repart chez DC, on continue avec le Green Lantern New Guardians numéro 6, Tony Bedard au scénario, Tyler Kirkham au dessin, Bat à l'ancrage. Donc les différents membres des corps, donc on avait un vert, un violet, un orange, un jaune, un bleu et un indigo.
Mm-hmm.
Donc tout sauf le rouge, quoi.
Il y en a un qui tombe à l'eau.
Ben, c'est un peu ça, en fait. Hein. Ils vont rencontrer ce fameux Invictus qu'on avait vu débarquer... dans le dernier numéro, celui qui serait à l'origine de ce vol de bagues qu'on a vu dès le premier épisode. Bien sûr, ça va absolument pas bien se passer, mais vraiment pas bien du tout. Il est extrêmement puissant, il leur met une branlée comme ils s'en sont jamais pris, je pense. Et c'est vraiment, vraiment axé baston. Il y a Kyle qui découvre une façon d'utiliser sa bague. Enfin, on découvre déjà une limitation de l'anneau des Green Lantern assez intéressante puisque il n'arrive pas à contacter les autres qui sont répartis sur les autres planètes de cette espèce de vaisseau système solaire, tout simplement parce que il ne peut pas rentrer en contact avec une bague d'une autre couleur puisque c'est la volonté, il peut pas faire avec une autre émotion. Il va réussir à déjouer le système, c'est plutôt pas mal et je trouve que Tony Bedard a de très très bonnes idées en ce moment. Pour moi, c'est lui qui a les meilleures idées sur la franchise Green Lantern. C'est assez étrange. Donc je sais que Sam doit hurler de terreur.
J'étais en train de penser à ça.
En écoutant ça, mais non, c'est vrai, honnêtement, il a de très très bonnes idées en ce moment. Comme quoi, ce qu'il avait raté sur Green Lantern Corps, il s'en sort beaucoup mieux ici. Donc pour moi, c'est un bail, même si celui-ci est quand même un plus petit bail par rapport aux autres, parce que ça reste quand même pas mal de baston. Voilà. Et je vais passer maintenant la parole à Poupoupouf Nono.
Oui, alors moi j'ai fait un truc auquel on ne s'attendait absolument pas, et je pense qu'il n'a jamais été traité dans les 83 épisodes des Weekly.
Jamais.
J'ai lu le Simpsons Comics numéro 187, paru chez Bongo Comics. Voilà.
D'accord. Eh bien, merci.
Mais ouais. Alors, au crédit, on a forcément les covers sont faits par Matt Groening. Au scénario, on a Ian Boothby, je sais pas. Au dessin, John Costanza, à l'ancrage, Phyllis Novin, et à la colorisation, Art Villanueva. Voilà. Alors, l'histoire, parce que oui, il y a une histoire.
Ça commence bien.
Et comme dans les Simpsons, les histoires sont toujours rocambolesques, là, en fait, c'est Homer qui casse Internet.
Ah, bravo.
D'accord.
En fait, on apprend que Monsieur Burns, oui, voilà, putain, j'arrivais plus à trouver. Non, en fait, Homer, au début de l'épisode, est déguisé en Monsieur Burns. Il s'est mis un nez crochu et il s'est mis une touffe de cheveux sur les côtés.
Rien que pour ça, faut le voir.
Voilà, et il déambule dans les couloirs de l'usine en se faisant passer pour Monsieur Burns, mais forcément personne n'y croit. Et en fait, il apprend par Smithers que Monsieur Burns a gagné au poker l'internet, donc les ordinateurs responsables d'internet, et il a gagné face à Al Gore, un Al Gore complètement bourré dans les années 70. Et Homer renverse de la bière dessus, et donc Internet explose. Donc il n'y a plus personne à Internet. Donc on a une page en fait où il nous montre différents protagonistes, où par exemple il y a le marin, le capitaine de bateau, qui dit ouais, moi j'ai besoin de la carte des océans, sinon j'arrive pas à naviguer. Il y a le patron du comic shop qui était en train de faire sa 30e page de newsgroup sur le sujet Batman est meilleur que Spider-Man. Voilà, il y a les deux sœurs de Marge qui sont dégoûtées parce que ça leur coupe dans leur streaming de MacGyver.
J'en étais sûr.
Voilà, donc et Homer se retrouve devant le juge, et en fait le juge lui est pas content parce que lui il a pas pu télécharger le dernier épisode de Grey's Anatomy sur son téléphone. Donc il lui dit qu'en fait tant qu'Internet ne sera pas réparé, ça sera Homer et sa famille qui prendront le rôle d'Internet.
Ils vont suéder Internet.
Voilà.
D'accord.
Donc, et en fait, il y a plein de gens qui vont venir chez eux pour leur demander des trucs, mais des trucs tout cons. Style, il y a Mo qui est déçu de ne plus voir des films en costume. Donc Marge en fait va déguiser Maggie, le chat Snowball et le chien Petit Papa Noël et lui faire des films suédois. Elle lui fait pour commencer Robin des Bois, ensuite elle lui fait le Roi Lion. Il y a le Snake, vous savez, le gros méchant là, le bandit, qui lui est dégoûté parce qu'il peut plus télécharger de films illégaux. Et Bart va lui dire, bah tiens, si tu veux, j'ai toutes les cassettes qu'Homer n'a pas rendues au vidéoclub, donc c'est des films illégaux. Et il fait, ah bah c'est cool et tout. Il y a le professeur Folding qui lui doit envoyer impérativement un mail sous peine de fin du monde. Donc c'est Marge qui va courir, qui va prendre la voiture et tout pour aller lui donner. Et en fait, il se rend compte que son bureau était juste en face du mec. Les deux bureaux étaient face à face, mais il est trop timide, le professeur, donc il peut pas aller donner le mail en personne. Il y a Pat, je vais pas tout raconter, mais c'est extrêmement drôle. Franchement, je me suis vraiment marré en le lisant. C'est vraiment les Simpsons télé transposés en papier, avec le même humour, avec les mêmes références. Voilà, c'est vraiment très drôle. Pour moi, c'est un bail. Alors, ouais, on va pas acheter ça tous les mois non plus, quoi. Je veux dire, c'est quand même $3. Mais c'est vraiment très drôle. Si vous voulez vraiment vous marrer, prenez-le, quoi.
D'accord. D'accord. En tout cas, t'en as bien fait la pub, hein.
Ouais.
Ça a donné envie d'acheter, hein.
Mais ouais, c'était la première fois que je lisais un Simpson en comics, et vraiment très drôle.
Ok. Eh bien, on va rester dans la licence, Jean-Lô?
Oui, tout à fait, avec Tortue Ninja
Teenage Mutant Ninja Turtles en anglais chez IDW avec Kevin Eastman au scénario. C'est donc un comics en couleur puisqu'il est en Eastman Color. Et que deviennent les autres scénaristes? Il y a Tom Waltz. Tom Waltz devienne. Voilà, j'en ai encore plein.
Il a réussi à nous faire le podcast façon un évent.
Hein. Ouais, Et au dessin, il y a Dan Duncan, dont les dessins s'affinent. Donc, c'est que son régime marche. Voilà. C'était la partie. Voilà.
J'allais plutôt dire Duncan MacLeod, tu vois.
Ah ouais, non, c'était le régime Duncan. Bon bref, ok, on va passer à la review proprement dite.
Oui, please.
Donc j'ai l'impression, en tout cas c'est vrai que j'ai pas lu les précédents numéros, mais qui sont déjà sortis en France, donc je vais pouvoir me rattraper rapidement, que c'est le début d'un nouvel arc. Et en introduction, on a Krang qui fomente un nouveau coup sur une planète, on sait pas trop où c'est, mais en tout cas il prépare quelque chose de pas très très bien. Et puis pendant ce temps-là, bah, on suit nos chers amis les tortues.
C'est sûrement la dimension X.
Oui, sûrement, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un épisode des Tortues Ninja ou lu les Tortues Ninja, donc voilà, c'est vrai que je suis un peu paumé. Et là, ça m'a fait plaisir de m'y remettre. Et donc pendant ce temps-là, on suit les tortues qui s'adonnent à leur passion.
Manger des pizzas.
Voilà, tout à fait. Et donc bah là, ils sont partis chercher des pizzas gratos chez un ami pizzaiolo. Donc voilà. Et pendant ce temps-là, il y en a deux qui sont restés avec Splinter dans leur cachette, et elles se font attaquer par ces petits robots. Vous savez, les petits robots mécaniques qui ressemblent à des canards avec des grosses dents. Là. Enfin, je sais pas comment. Mais
en français, ça s'appelait les mangerats.
Les mangeras, voilà. Et ben il y avait ça dans le jeunesse, et ce qui me permet de faire passer un petit message, j'ai acheté sur une brocante le jeu TMNT de quand on était petit, mais j'ai pas la NES pour jouer. Donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà.
Et donc Jean-Lô, j'ai juste une question. Ouais. Pourquoi
je l'ai acheté?
Ben oui.
je l'ai vu, j'ai fait "Wow, trop bien, collector et tout." Et voilà, comme je suis un peu j'ai un peu la fièvre acheteuse.
Non, vous avez jamais vu Jean-Lô dans une convention.
Et voilà. Et voilà. Mais enfin, on retrouve vraiment toujours cet univers à la fois des dessins animés, du jeu vidéo. Enfin, vraiment les tortues ninja de notre enfance, et ça fait toujours autant plaisir, quoi. Et puis juste, on se rend compte qu'elles ont peut-être des réminiscences d'une vie antérieure. Donc ça lance un peu la suite pour l'intrigue.
Ça trois à mon avis, tu sais, c'est quand elles étaient en samouraï et tout.
Mais qu'est-ce que c'était pourri.
Il est inutile celui-là. Hein.
Non mais voilà quoi, c'est. Enfin moi j'aime bien, donc ça continue. C'est vrai que j'ai pas trop lu les autres. J'avais lu le premier, c'était assez sympa. Mais c'est toujours très intéressant. Et puis j'ai hâte de lire la suite, quoi. Donc c'est un bail pour moi. Surtout qu'au niveau du dessin, c'est assez dynamique et tout, donc. C'est pareil quoi, il y a pas énormément d'action, mais c'est bien ficelé le tout. Voilà, ça veut rien dire, mais voilà, c'est.
Non mais si.
Il y a une bonne histoire. Donc vivement la suite.
Eh ben parfait. Comme quoi les licences, hein, des fois c'est des comics pourris et des fois non.
Non là c'est vraiment super bien, quoi.
Ce que je viens de dire, ça s'appelle une banalité, tu vois.
D'accord.
Ça s'appelle meublé. Ok, on va passer à la suite et fin puisque plus personne n'a de review.
Non.
Teen Titans numéro 6. Bon, je vais faire mes deux dernières reviews très vite. Hein. Scott Lobdell au scénario, Brett Booth au dessin, Norm Rapmund à l'ancrage. À la fin du numéro 5, donc qui était un gros combat contre Superboy, Kid Flash était assez mal en point puisque Superboy l'avait fait vachement accélérer et Kid Flash n'avait pas l'habitude d'aller aussi vite. Il se trouve, disons, le costume en molécules instables, bah c'est lui, mais c'est juste lui qui est sans costume.
D'accord. Donc il est
ça ne veut rien dire. Non, en fait, si, il a un costume, il est juste instable au niveau de ses molécules. C'était une vanne tentée et une vanne ratée. Tu vois, ça arrive, on essaye en direct, comme ça, des petites choses, et ça marche pas. Red Robin, va faire appel à Static, de Static Shock. Hein, donc on fait un petit guess pour dire, rappelez-vous, il a une série. Plus pour très longtemps, mais il a une série. Si vous pouviez acheter un petit peu en masse le dernier épisode, histoire qu'on rentre dans les frais, ce serait cool. Donc il va faire appel à Virgil Hawkins pour essayer de résoudre le problème de Flash, puisqu'il n'a pas pu joindre la GLA, ils étaient partis en mission, quelque part, on ne sait pas où. Peut-être un jour, dans le numéro 68 de Justice League, au rythme où ça avance, on nous dira ils s'étaient partis, un appel raté de Red Robin, allez voir Teen Titans 6.
D'accord.
Oui, c'est une petite pique à Justice League au passage. Donc non, l'épisode est sympa, ils vont se fighter avec un nouveau méchant qui a le pouvoir de contrôler les gens, qui va donc prendre le contrôle de la personne la plus faible mentalement, et c'est donc la femme araignée.
Wonder Girl.
Non, la femme araignée. Dont j'ai totalement oublié le nom.
Attends, oui, c'est un nom commence par S, je crois.
Oui, c'est ça, mais j'ai complètement oublié le nom quand même. Ça va pas me revenir, donc c'est pas la peine que je cherche.
On dirait bien une connerie, mais non.
Bah on sait jamais, hein, des fois.
Non, non.
Non, c'est pas ça.
Ça peut être ça.
Non, c'est pas ça.
Donc, bref, non, ça me reviendra pas définitivement. Donc voilà, non, l'épisode est sympa, c'est rythmé, il y a de l'action, et Kid Flash va avoir un nouveau costume.
La chance.
Ouais. Non, bon, franchement, c'est cool. À la rigueur, le petit reproche, c'est pourquoi Static Shock n'est pas dans l'équipe, puisque finalement, il a à peu près le même âge qu'eux.
Oui, bah.
C'est aussi un méta.
Et puis, bah, vu que sa série va être annulée.
Il aurait il aurait tout à fait sa place dans les Teen Titans. Voilà, donc peut-être un jour rejoindra-t-il l'équipe. Bon, ça reste sympa, donc c'est un bail, parce que moi j'aime bien Teen Titans. Il y a eu, pareil, encore une fois, comme la plupart des titres d'essai, une petite baisse, là, entre le numéro 3 et le numéro 4. Et ça repart bien. Voilà. Me reste Flash numéro 6. Donc Francis Manapul et Brian Buccellato au scénario. Les dessins sont de Francis Manapul, la colorisation de Brian Buccellato aussi. C'est vraiment un comics écrit en tandem.
À quatre mains, comme on dit. Voilà. Alors qu'on n'utilise que deux mains. Mais...
J'essaie de voir s'il y a des réactions, et en fait, il y a des blancs. Ça me fait peur. Donc on a vraiment ce qu'on nous avait promis, c'est-à-dire la rencontre de Flash avec Captain Cold, mais un Captain Cold qui n'a plus besoin de flingue, hein, qui contrôle la glace lui-même. Une évolution quand même dans le personnage.
Ouais, c'est énorme quand même. Hein.
On sait pas trop pourquoi, moi ça m'embête un petit peu, perso.
Moi aussi, ouais.
Je préférais le mec qui avait des flingues parce que voilà, ça faisait pas encore une fois un mec à super pouvoir, quoi.
Puis surtout que Captain Cold, c'était quand même de tous les Lascars, c'était quand même un de ceux qui était le mieux construit, je trouvais, qui avait vraiment un passé, enfin qui était vraiment super intéressant. Et
alors,
là,
bien sûr, reboot oblige.
Il y a quelques changements. Oui, faut moderniser, quoi. Ouais.
Hein, non, mais il y a quelques changements, c'est-à-dire que voilà.
Ah oui.
On revient un petit peu à l'origine sans forcément y revenir. On voit qu'il y avait déjà eu des aventures passées, mais on nous en dit pas plus. Et en même temps, tout ce qu'on sait sur Captain Cold, ne s'est pas forcément passé, quoi. C'est le problème de ce reboot en général, hein. De toute façon, on ne sait plus trop ce sur quoi on peut compter. Donc Flash a toujours les mêmes problèmes qu'auparavant avec ses pouvoirs, c'est-à-dire que s'il va trop vite, il va créer des paradoxes temporels. C'était le cas dans le dernier arc. Ça fait un mois, donc maintenant je le dis, hein, voilà, tant pis pour ceux qui n'avaient pas lu. Donc voilà, il est coincé entre le fait d'essayer de vaincre un Captain Cold surpuissant qui en plus le ralentit, ce qui l'oblige à pousser sa vitesse, tout en évitant d'essayer de dépasser les 80% de sa vitesse, sans quoi il risque de provoquer un paradoxe temporel. Il y a un côté assez retour au futur, c'est assez marrant. Mm-hmm. Mais voilà. Bon. Moi j'ai bien aimé. Je trouve ça toujours sympa. Donc là encore une fois, un bail, quoi. Okay. Même si, bon, quelques réserves sur le nouveau Captain Cold.
Tu avais quelque chose à rajouter, Claire ?
Oui, elle s'appelle Skeeter, la nana.
Merci Wikipédia.
Et non, mais j'ai galéré en plus pour trouver son nom, elle apparaît nulle part.
Skeeter, oui, effectivement, c'est ça.
Je savais bien que c'était un nom qui me rappelait quelque chose. En fait, ça me fait penser à Skittles.
Bah, comme à tout le monde, je pense.
Ah oui.
Ouais.
Bref, donc bye bye, et puis bye bye, puisque c'est la fin du podcast.
Oh,
déjà.
Oh,
bah, déjà, oversized, quoi. Ah non, ça va.
Bon, parce que 1h14 là.
Le podcast à l'arrache qui est pas trop long quand même.
Oui, parce qu'il faut savoir quand même qu'on a préparé ce podcast exactement un quart d'heure à l'avance. C'est-à-dire que on savait pas un quart d'heure avant qu'on allait enregistrer le podcast.
Bah, déjà, il a failli être annulé.
Oui.
Voilà.
Et puis finalement.
Mais j'ai sauvé la situation.
Et finalement, non.
Pardon.
Bref, c'était fun. Bizarre, mais fun.
Mais bon. Mais fun
quand même.
Ah oui. Oui, ça a bien marré. Et surtout à force d'avoir entendu parler de pâté tout à l'heure avec Nono et de pizza par Jean-Lô, maintenant j'ai super la dalle.
Bien.
Ouais.
Pizza.
Donc, eh bien, je pense qu'il est temps de remballer tout ça.
Et de faire une bonne conclusion.
J'allais dire d'aller manger, mais on peut aussi faire une conclusion avant.
Mais d'ailleurs, c'est vrai que les conclusions sont sponsorisées par Uncle Ben's, parce que c'est un riz qui cuit en 12 minutes, soit le temps de nos conclusions. Voilà.
12 minutes, ah bah, non, il fait vachement plus rapidement.
Oui, bon, c'est bon. Hein.
Non, mais je pense qu'il faut vraiment arrêter là.
Il y a des moments, je pense aussi, on devrait couper avant. Avant la conclusion. Ouais. Bref, comme d'habitude, vous nous retrouvez bien évidemment sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez nous laisser les commentaires sur le site, retrouver tous les anciens épisodes sur iTunes et réécouter les émissions ou les écouter sur Pod Radio le mardi à 14h, le samedi à 6h du matin, pour les gens qui se lèvent très tôt.
Voilà. Un samedi. Okay. Ou sinon, dans la vraie vie aussi, vous pouvez nous retrouver. Je m'appelle Jean-Lo, je suis célibataire. Voilà, petit message d'un oncle fille, hein, si vous êtes intéressé.
Donc, pour les 5 auditrices qui nous écoutent.
Voilà. Non mais sur un malentendu, ça peut conclure. Hein. Enfin bon bref. Voilà.
Je vais finir le petit tour.
Revenir.
Vous pouvez aussi nous envoyer des mails. L'adresse c'est podcast@comiccity.fr. Je sais pas quoi dire à part pitié, continuez de nous écouter.
Oui, bah oui, si, continuez, c'est bien, on aime bien.
Je serai pas toujours là, vous savez.
Mais justement, les gens vont comprendre. Les gens vont comprendre puisque, exceptionnellement, hein, ce que j'ai coupé au départ et qui nous faisait énormément rigoler pendant ta première review, je pense que je vais le diffuser un petit peu après. Hein. On va mettre une petite partie best-of à la fin. Donc restez bien jusqu'après le générique.
Les filles, arrêtez-vous là, c'est pas grave, c'est pas intéressant.
On se dit à la semaine prochaine, à très bientôt aussi pour un Comic City et vers de nouvelles aventures, vers l'infini et au-delà.
Oui, et très prochainement au-delà. Des spéciaux également, un spécial.
Oui.
Oui. Ah. Oui. Et pas oui. Et plusieurs.
D'accord.
Et des spéciaux.
Voilà. Non mais je crois qu'on a vraiment fait le tour, donc il est temps de conclure. Donc on dit au revoir tout le monde et à bientôt.
Au revoir tout le monde et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.
Bye bye.
Alors donc, nous allons donc parler de Marvel avec All-Star Western chez DC Comics. Donc avec Jimmy Palmiotti au scénario, Justin Gray au dessin,
au
et
scénario.
Moriarty... Pardon ?
Au scénario aussi, Jimmy Palmiotti, Justin Gray en tant
que... Merde, putain.
Avec... Tu veux le refaire peut-être ? Vas-y, refais-le Jean-Louis, ouais. Ça sera puissant.
Avec Jimmy Palmiotti au scénario, accompagné de Justin Gray, et puis quelqu'un au dessin...
C'est ça, c'est Moriarty.
Non, c'est Moritat.
Moritat, oui.
Tu sais, Moriarty, ça paraît bizarre.
Non, c'est une série chez Image.
Bah oui, c'est pour ça.
Ok, donc nous allons commencer cette semaine avec All-Star Westerns chez DC Comics. All-Star Western qui est scénarisé par Jimmy Palmiotti et Justin Gray.
Peut-être que ça ira en fin de podcast. La présentation foireuse.
Non.
Allez, on y retourne.
Eh bien, merci, donc. Allez.
Ça va être infaisable.
Attends, je mets une petite gorgée.
T'as que j'ai soif.
Ok.